Vous écoutez, on lit pour vous.
L'égalité vue par Annick Bissonnette. Une discussion dirigée par l'équipe de rédaction parue le 13 juin 2025 dans la Gazette des femmes. Directrice artistique de l'École supérieure de ballet du Québec depuis 2010, Annick Bissonnette figure parmi les ballerines québécoises les plus accomplies. Applaudie sur scène dans le monde entier pendant plus de 30 ans, elle s'engage ensuite pour promouvoir cette discipline et transmettre sa passion de la danse aux interprètes de demain. En 1989, elle se joint au Grand Ballet canadien et devient première danseuse dès l'année suivante. Cette interprète d'exception a joué les personnages principaux des ballets les plus célèbres, dont Le Lac des Cygnes, Gisèle et Casse-Noisette, travaillant avec de nombreux chorégraphes contemporains d'ici et d'ailleurs. De 2004 à 2014, Annick Bissonnette assure la direction artistique du Festival des arts de Saint-Sauveur. Elle a aussi été directrice de la célèbre compagnie de danse La 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 Human Step, de 2008 à 2010. Parallèlement, elle préside le Regroupement québécois de la danse de 2004 à 2010. En 2003, elle met sur pied le fonds Casse-Noisette pour enfants, dans le but de faire découvrir la magie de la danse aux jeunes issus de milieux défavorisés. Engagée au sein de plusieurs conseils d'administration, Prix de la danse de Montréal, Van Grim de Corps Secret, CAPAS, Danse Danse, Fondation des prix du gouverneur général pour les arts du spectacle, Annick Bissonnette a récolté de nombreux honneurs. Discussion autour d'un art en constante évolution. Égalité, équité et diversité pour les femmes à tous les échelons du milieu du ballet et de la danse en général au Québec. On y est, selon vous? Oui, j'ai le sentiment qu'on y est, du moins en grande partie. Le monde du ballet a vraiment évolué avec le temps. C'est fascinant de penser qu'à l'époque de Louis XIV, seuls les hommes dansaient le ballet. Dès le 19e siècle, les femmes ont pris une place prépondérante sur scène, notamment avec l'arrivée de la danse sur pointe. Et aujourd'hui, ce sont souvent les ballerines qui marquent l'imaginaire collectif. Les femmes occupent une place centrale dans l'univers de la danse. L'égalité salariale est une réalité dans les compagnies professionnelles que j'ai connues, et j'ai toujours senti beaucoup de respect entre les artistes, peu importe le genre. C'est du côté de l'inclusion de la diversité qu'il reste du chemin à faire. Le ballet est une discipline issue d'un monde très blanc, mais je vois de belles avancées. Plus de diversité sur scène, des accessoires, pointes, collants et costumes adaptés à toutes les quatre nations. D'ailleurs, les grandes écoles de ballet du Canada jouent un rôle déterminant pour rendre le milieu plus équitable. Je pense notamment à la démarche « L'évolution du ballet »,« Ballet Forward », un projet national axé sur l'équité, la réconciliation et la lutte contre le racisme dans le milieu du ballet auquel participent des étudiants de l'École supérieure de ballet du Québec. La culture du ballet est en transformation et c'est encourageant. Qu'est-ce qui avance et progresse assurément dans le bon sens pour les femmes dans le vaste monde de la danse, au Québec comme ailleurs? Ce qui me frappe le plus, c'est le changement de regard sur le corps des danseuses. Quand j'ai commencé, le modèle dominant était celui d'une ballerine très mince, presque fragile. Aujourd'hui, on valorise des corps sains, forts, athlétiques. Et c'est un immense progrès. Les chorégraphes recherchent désormais des interprètes capables de danser une grande variété de styles. La polyvalence est devenue la norme, et cela contribue à faire tomber les stéréotypes. La diversité corporelle et culturelle est de plus en plus présente sur scène. Et surtout, la santé des interprètes est de mieux en mieux prise en compte. J'ai vu des directions artistiques retirer un rôle à une danseuse parce qu'elle était trop maigre, par souci pour sa santé. C'est une prise de conscience qui n'existait pas il y a quelques décennies. À l'École supérieure de ballet du Québec, nous faisons beaucoup de prévention. Nous travaillons avec une professionnelle de la nutrition, nous offrons du coaching en performance mentale, des ateliers de cuisine, un accompagnement global pour la santé physique et mentale et le bien-être. Et bien sûr, nous transmettons à nos élèves, filles et garçons, l'importance d'aimer leur corps, de le respecter, d'en prendre soin. On connaît l'importance d'éduquer les filles et les garçons aux relations égalitaires, de leur transmettre des modèles exempts de stéréotypes. Dans quelle mesure le ballet peut-il contribuer, chez les garçons notamment, à l'atteinte de ce grand objectif social d'égalité? Le ballet peut jouer un rôle significatif. D'abord, il permet de valoriser des qualités humaines et physiques universelles, discipline, expressivité, endurance. Je pense qu'il a le pouvoir de casser certains stéréotypes, notamment pour les garçons. Être danseur est parfois perçu comme peu masculin, alors que ce sont des athlètes incroyables. C'est une idée reçue qui résiste au temps, mais qu'on s'efforce de faire reculer chaque jour. Certes, les rôles des œuvres de répertoire classique sont souvent très genrés. Princesse, prince, cygne blanc, cygne noir. Mais pour moi, le ballet est un élément fondateur d'une tradition toujours en évolution. Des compagnies contemporaines revisitent et réinterprètent avec intelligence les grands classiques, comme le Lac des Cygnes ou Gisèle, ce qui permet de faire coexister tradition et modernité et de repousser les limites du passé. La formation professionnelle en danse est riche et diversifiée. En plus du ballet, on enseigne aussi l'entraînement physique, la danse contemporaine, et on vient même de lancer un parcours multidance pour les jeunes qui inclut des cours de street dance, danse commerciale et flamenco. Ce type de formation plus large éloigne des représentations figées et permet à chaque élève de trouver sa voie, au-delà de tout stéréotype. Dans un milieu majoritairement féminin, plutôt compétitif et marqué par la culture du corps, est-ce possible de concilier maternité et danse professionnelle? Oui, et je peux en témoigner personnellement. Pour ma part, je suis devenue une meilleure artiste après être devenue mère. J'étais moins centrée sur moi, plus ouverte, plus habitée. Je me souviens très bien d'un moment marquant. J'ai dansé un solo néoclassique de James Kudelka sur pointe, enceinte de 8 mois. C'était un geste de liberté, de confiance, de puissance aussi. Beaucoup de danseuses poursuivent leur carrière après avoir eu des enfants. L'idée que la vie artistique s'arrête quand on devient mère est dépassée. Il faut simplement adapter les choses, comme dans n'importe quel milieu exigeant. J'ai grandi entourée de femmes fortes. Chez moi, nous étions 3 filles avec un père très présent. Dans le milieu de la danse, j'ai retrouvé cette même force féminine, ce même égard. Je n'ai jamais eu à me battre pour ma place en tant que femme. Mais si ça avait été nécessaire, je l'aurais fait. Nommer une valeur égalitaire qu'il faut absolument transmettre aux générations futures. Le respect, c'est la base de tout et c'est une valeur essentielle pour moi, qui va bien au-delà des questions de genre. Respecter l'autre, c'est être capable d'écoute, d'empathie, de bienveillance. Sans respect, il n'y a ni dialogue ni collaboration possible, que ce soit sur scène, en studio ou dans la vie. C'était « L'égalité vue par Annick Bissonnette », une discussion dirigée par l'équipe de rédaction parue le 13 juin 2025 dans la Gazette des Femmes.
Poste Canada devrait cesser la livraison quotidienne du courrier à la porte. Un texte de Craig Lord de la presse canadienne paru le 16 mai 2025 dans Le Devoir. Le rapport de la commission d'enquête sur les relations de travail chez Poste Canada recommande l'élimination progressive de la livraison quotidienne du courrier à domicile aux adresses individuelles, tandis que la livraison quotidienne aux entreprises devrait être maintenue. Il recommande également la levée des moratoires sur la fermeture des bureaux de poste ruraux et la conversion vers des boîtes postales communautaires. Mes recommandations sont fondées sur ma conclusion qu'il existe un moyen de préserver Poste Canada en tant qu'institution nationale vitale, a écrit le commissaire William Kaplan dans le rapport publié vendredi le 13 mai 2025. Je les ai conçus pour répondre aux problèmes actuels, arrêter puis inverser les pertes financières croissantes en mettant en place les changements structurels nécessaires, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des conventions collectives, poursuit-il. Ce rapport découle d'une demande d'Ottawa pour mettre fin à une grève qui perturbait la livraison du courrier à l'approche des fêtes fin 2024. Le gouvernement avait fait appel à la Commission fédérale des relations du travail et de l'emploi afin d'ordonner le retour des employés des Postes au travail. Le rapport examine la situation financière de Postes Canada en vue de conclure une convention collective. Selon M. Kaplan, Postes Canada fait face à une crise existentielle. La société d'État est insolvable ou en faillite, mentionne-t-il. Sans changement réfléchi, mesuré, échelonné, mais immédiat, sa situation financière continuera à se détériorer, affirme le commissaire. Le PDG de Postes Canada, Doug Ettinger, a commenté vendredi le rapport de M. Kaplan. Celui-ci offre à la société d'État, à ses employés et au syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, STTP, une évaluation franche et directe des défis auxquels le service postal est confronté, a affirmé le haut dirigeant de la société d'État. M. Ettinger a salué les recommandations du rapport. Elles arrivent à un moment crucial, selon lui, alors que le Canada cherche à renforcer son économie pour se protéger des menaces américaines. Jusqu'à récemment, Postes Canada était en mesure de fonctionner de manière financièrement viable. La livraison du courrier à faible coût, en milieu urbain et suburbain, a subventionné la livraison à coût élevé dans les communautés rurales, éloignées et autochtones, soutient M. Kaplan. Ce modèle ne fonctionne plus, car les opérations traditionnelles, la distribution du courrier, ont fondamentalement changé. Moins de lettres doivent désormais être distribuées à davantage d'adresses, précise-t-il. Le syndicat défend le statu quo. M. Kaplan a déclaré que les deux parties ont des points de vue et des évaluations diamétralement opposés, ce qui a entraîné des impasses à la table des négociations, mais il a imputé la responsabilité de l'échec à l'une d'elles en particulier. Les négociations ont largement échoué parce qu'une des parties, le STTP, défend le statu quo et veut l'améliorer, par exemple en renforçant la sécurité d'emploi et en améliorant la rémunération totale et les conditions d'emploi, qui sont les meilleures de leur catégorie, avance-t-il. La nouvelle ministre fédérale de l'Emploi et des Familles, Patty Ashdou, a dit vendredi après-midi que le rapport propose des suggestions judicieuses sur la manière de poursuivre les négociations de bonne foi. Il est temps que tout le monde mette de côté ses différences, se concentre sur des objectifs communs et garantisse un système postal fort aujourd'hui et à l'avenir, a-t-elle déclaré dans une publication sur le réseau social X. Embaucher des employés à temps partiel. Parmi ses autres recommandations, il suggère que la société d'État ait la possibilité d'embaucher des employés à temps partiel pour livrer les colis la fin de semaine et pour contribuer à la gestion du volume de courrier pendant la semaine. Le rapport évoque également que Postes Canada doit pouvoir modifier ses itinéraires quotidiennement pour tenir compte des volumes. Tout au long des négociations, le STTP a repoussé les propositions qui obligeraient Postes Canada à embaucher des travailleurs à temps partiel pour combler l'écart de travail, soutenant que ces mesures pourraient compromettre la sécurité d'emploi des employés à temps plein. Plus tôt cette semaine, Postes Canada a annoncé une pause des négociations avec le syndicat. La société d'État avait expliqué qu'après des jours de discussions peu fructueuses, cette suspension devait lui permettre de revenir à la table des négociations avec des propositions qui reflètent la réalité financière du service postal. Le syndicat a qualifié cela de tactique et a accusé l'employeur de refuser de négocier avec une intention réelle. Vendredi, M. Ettinger a indiqué que Postes Canada collaborera avec nos agents négociateurs et notre actionnaire, le gouvernement du Canada, pour relever nos défis et trouver une voie durable. Le STTP a confirmé avoir reçu le rapport du commissaire Kaplan, mais n'a pas commenté ses conclusions. Le syndicat a indiqué qu'il devait rencontrer la ministre Ashdou vendredi pour discuter du rapport et des négociations. Le syndicat n'a pas répondu à notre demande de commentaire. C'était « Poste Canada devrait cesser la livraison quotidienne du courrier à la porte », un texte de Craig Lord de la presse canadienne paru le 16 mai 2025 dans Le Devoir.
Mille logements de plus dans le futur quartier au bord du fleuve à Longueuil, un texte de Marco Fortier, paru le 2 mai 2025 dans Le Devoir. Plus de 1000 logements supplémentaires s'ajoutent à l'ambitieux quartier planifié au bord du fleuve, près de la station de métro Longueuil-Université de Sherbrooke. La Ville de Longueuil et la Société immobilière du Canada, SIC, propriétaire de la majeure partie des terrains, ont convenu de construire 5000 logements plutôt que les 3500 ou 4000 prévus à l'origine afin d'attirer davantage de commerces de proximité dans ce quartier qui se veut exemplaire. Des maquettes du futur lotissement de la Pointe de Longueuil, obtenues par Le Devoir, montrent des tours en hauteur, d'autres bâtiments de taille plus modeste et de la verdure à profusion, dont une promenade publique en bordure du fleuve, sur ce qui est, à l'heure actuelle, un immense terrain vague. Ce site qualifié d'exceptionnel entre le Saint-Laurent et la route 132 est d'une superficie de 2,5 millions de pieds carrés, 232 260 mètres carrés, soit l'équivalent de 43 terrains de football. Il longe le fleuve entre le pont Jacques-Cartier et le club nautique de Longueuil. Les résidents et les promeneurs jouiront d'une vue imprenable sur la voie maritime et sur Montréal, avec les manèges de la Ronde en avant-plan. Un terrain a aussi été réservé pour une école, jugée essentielle par la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Nos écoles sont en surcapacité. Il est clair que ça prend une école primaire dans le secteur. On veut éviter de créer un Griffintown 2.0, lance-t-elle en entrevue avec Le Devoir. Elle fait référence au quartier érigé progressivement depuis une quinzaine d'années près du canal de la Chine à Montréal, sans qu'aucune école n'ait été planifiée. Les familles du secteur doivent transporter leurs enfants dans des écoles de quartiers voisins. Un projet d'école primaire dans Griffintown, approuvé par Québec, a été mis sur pause au début de l'année par le gouvernement Legault pour des raisons budgétaires. École en hauteur. Compte tenu de la densité du quartier planifié à Longueuil, les plans prévoient la construction d'une école en hauteur, différente du modèle traditionnel des bâtiments scolaires au Québec. La plupart des nouveaux quartiers envisagés dans la grande région de Montréal prévoit de telles écoles inspirées de pays européens où la densité de population et du cadre bâti est beaucoup plus élevée que chez nous. Catherine Fournier a bon espoir que, dans l'intérêt des élèves, le ministère de l'Éducation autorisera cette dérogation à l'architecture scolaire. « Je sens une certaine ouverture à ce modèle-là », dit la mairesse, qui a visité une école de 6 étages à Copenhague, au Danemark, en 2023. Chaque étage offrait une aire de jeu aux élèves. La mairesse et la SIC ont convenu d'augmenter la densité habitable du projet en reconnaissant qu'il s'agit d'une volonté habituelle des promoteurs immobiliers. Ceux-ci devront, en retour, contribuer aux fonds créés par la Ville pour financer des logements sociaux ou abordables, souligne Catherine Fournier. Le futur quartier comprendra au moins 20% de ses logements hors marché, destinés aux locataires de la classe moyenne ou à faible revenu. Espace vert. L'école sera construite au cœur du quartier, à côté d'un parc muni d'un terrain de jeu pour les enfants, souligne Pierre-Marc Mongeau, vice-président de la division immobilier pour le Québec et l'Atlantique à la SIC. Plus du tiers du futur quartier est réservé à des espaces verts, une proportion nettement supérieure à la moyenne de 10% pour des projets comparables, explique-t-il. Une piste pour les cyclistes et les piétons est prévue le long du fleuve. Le lien cyclable actuel, très populaire auprès des adeptes du vélo, sera ainsi conservé, même bonifié, dans le futur quartier. L'aménagement d'une passerelle pour les vélos et les piétons au-dessus de la route 132 est prévu entre la station de métro et le nouveau quartier. La vieille passerelle située au bout de la rue de Châteauguay dans le vieux Longueuil sera aussi reconstruite, indique la mairesse. L'usine de traitement de l'eau potable, située à deux pas de cette passerelle, doit aussi être remise à neuf. L'appel d'intérêt pour l'aménagement du futur quartier doit être lancé dans les prochains mois aux promoteurs de grands ensembles résidentiels. Les détails de ce chantier, obtenus par Le Devoir, seront présentés vendredi dans le cadre du Forum stratégique sur les grands projets organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. La Ville de Longueuil et la SIC doivent conclure d'ici là l'entente finale sur l'aménagement du futur quartier, surnommé par certains le Brooklyn du Nord. Le projet doit se réaliser en 4 ou 5 phases sur une dizaine d'années. C'était 1000 logements de plus dans le futur quartier au bord du fleuve à Longueuil, un texte de Marco Fortier, paru le 2 mai 2025 dans Le Devoir.
Montréal crie victoire contre le Publisac, un texte de Marco Fortier paru le 1er mai 2025 dans Le Devoir. L'entreprise qui distribuait le Publisac vient de renoncer à sa poursuite contre la Ville de Montréal portant sur le règlement qui limite la distribution de 800 000 circulaires par semaine dans la métropole. L'administration Plante se réjouit de la levée de cet obstacle juridique et affirme que sa réglementation a permis d'éviter la production de 17 000 tonnes de déchets par année. Le Devoir a appris que Média Transcontinental a mis fin à sa contestation en Cour supérieure du règlement adopté par la Ville de Montréal en 2022. Ce désistement a été confirmé le 4 avril 2025. L'entreprise confirme que les démarches juridiques n'étaient plus nécessaires en raison de la création d'une nouvelle circulaire appelée Radar, venue remplacer le Publisac en mai 2023. Selon les évaluations de la ville, cette circulaire pèse à peine 80 grammes, comparativement à 500 grammes pour l'ancien Publisac. Il n'y a plus d'emballage en plastique. L'administration Plante estime que ce nouveau modèle d'affaires de Transcontinental, adopté sous l'impulsion de la ville, a réduit de façon considérable l'envoi de matières résiduelles dans les centres de tri. La circulaire Radar génère 3 328 tonnes de papier à recycler par année, comparativement à 20 800 tonnes avec l'ancien Publisac, une quantité comprenant plus de 41,6 millions de sacs de plastique, et ce, uniquement pour l'île de Montréal. L'abandon de cette contestation judiciaire confirme la validité de la démarche de la ville, souligne Marie-André Mauger, mairesse de Verdun et responsable de l'environnement au comité exécutif de Montréal. On était très contents quand on a appris le désistement de Média Transcontinental. Pour nous, c'est la preuve que ce règlement, adopté en 2022 et entré en vigueur en 2023, était pleinement légitime, a-t-elle affirmé en entrevue avec Le Devoir. Les modèles d'affaires axés sur la surproduction n'ont plus leur place en 2025. Quand on parle de transition écologique, il est certain que ça va amener des changements aux modèles d'affaires pour éviter le gaspillage, ajoute Mme Mauger. Le consentement d'abord. Le règlement municipal stipule que la distribution de circulaires est autorisée uniquement pour les ménages qui consentent à recevoir de la publicité à l'aide d'un autocollant apposé sur leur boîte aux lettres. Média Transcontinental y voyait une offensive contre la liberté du commerce. Jusqu'à l'adoption du règlement, les camelots distribuaient le publisac à toutes les portes, sauf celle affichant un autocollant, pas de circulaire. La ville de Mirabel avait été la première au Québec à adopter un règlement similaire dès l'année 2019. Transcontinental avait contesté la réglementation. La Cour d'appel avait rejeté les prétentions de l'entreprise, faisant valoir que les effets bénéfiques de la réglementation surpassaient les éventuelles conséquences économiques de cette limitation à la liberté de commerce. L'administration Plante se réjouit de pouvoir ainsi réduire la production de déchets à la source. L'interdiction des emballages de plastique pour la distribution de matériel publicitaire a aussi augmenté de façon notable la qualité des matières résiduelles envoyées au centre de tri, souligne la ville. Un nombre important de publisacs se retrouvait dans les bacs à recyclage sans que les circulaires soient sortis de leurs sacs de plastique, une pratique qui contaminait les ballots de papier. De plus, la réglementation adoptée par Mirabel et Montréal et le désistement de la poursuite de Transcontinental ouvre la voie à l'interdiction dans tout le Québec de publicité massive de type Publisac, fait valoir Marie-Andrée Mauger. Un poids pour les postiers. Malgré la diminution du volume de déchets généré par la distribution de la circulaire Radar, la ville de Montréal n'a pas pour autant remporté une victoire sur toute la ligne. La publicité produite par Transcontinental est distribuée par Poste Canada à toutes les portes, sauf celles qui spécifient leur refus de recevoir ce type de publication. L'entreprise affirme que 5 millions de circulaires Radar sont distribués chaque semaine au Québec et ailleurs au pays. La communauté métropolitaine de Montréal a formellement demandé à Poste Canada de renoncer à la distribution systématique des circulaires dans les 84 municipalités du territoire. La société fédérale n'est toutefois pas assujettie à la réglementation municipale, souligne la ville. Les postiers respectent l'autocollant, pas de circulaire. Poste Canada permet aussi aux Canadiens de refuser le publipostage en s'inscrivant au programme Choix des consommateurs, créé il y a 25 ans. La ville de Montréal note par ailleurs, dans son bilan de la première année d'application du règlement, que Transcontinental a réduit le poids de sa circulaire Radar après avoir reçu des commentaires des postiers. Les circulaires à distribuer s'ajoutaient au poids du courrier habituel, ce qui soulevait des enjeux de santé et sécurité au travail. C'était « Montréal crie victoire contre le Publisac », un texte de Marco Fortier paru le 1er mai 2025 dans Le Devoir.